Bonsoir, je suis Trudy Belter.
Bonsoir.
Et voilà, Monsieur Costa-Gavras, la vedette du jour.
Merci. Merci bien, merci.
Et je suis très contente et très honorée d'avoir le privilège de le présenter et un peu le questionner ce soir sur ses films et sur l'arrivée au monde d'un volume, un premier volume de son intégrale. Un magnifique coffret avec 10 DVD qui sont les films de sa première période de créativité. Qui n'est pas terminé. Il y aura un second volume et probablement un troisième, quatrième, etc.
Non, non, deuxième volume, après on verra.
D'accord. C'est formidable. Alors, voulez-vous que je vous présente d'une manière biographique ou voulez-vous nous dire votre biographie vous-même ?
Comme vous voulez.
Par exemple, vous étiez né en Grèce.
Je suis né en Grèce, en effet, et je suis venu en France faire des études. Je commençais des études de littérature à la Sorbonne pour faire une licence de lettres et parce que j'avais comme ambition un jour d'écrire. Et puis, j'ai découvert très vite à la Cinémathèque française une autre forme d'écriture qui était l'écriture du cinéma, l'écriture avec des images. Et comme je sentis très vite que pour écrire en français, il fallait vraiment avoir des bases très solides, je me suis dit que ce serait plus facile de suivre l'écriture cinématographique. Il y avait à l'époque, il y a toujours d'ailleurs, une école du cinéma en France qui s'appelait l'IDEC à l'époque, aujourd'hui s'appelle la FEMIS. Et j'ai vu la direction et ils m'ont accepté. Enfin, je suis entré à cette école. Je suis entré à cette école, non pas comme entraient les étudiants français, parce que c'était un concours très, très difficile. Et le directeur m'a dit, puisque vous faites une licence de lettres, vous me promettez que vous finissez votre licence et vous entrez dans l'école entre-temps. Vous pouvez faire les deux à la fois. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, j'étais pris par le cinéma.
Mais oui, mais le cinéma a eu le raison de vous prendre.
Oui.
Et alors, vous êtes devenu assistant à des grands...
J'étais pris par le cinéma et je n'ai pas fait la licence. Voilà.
Ah.
J'ai abandonné la licence parce que j'étais pris par tout le cinéma, c'est-à-dire toutes les sensibilités dans le cinéma, toutes les fonctions du cinéma, à commencer par la préparation du film, après l'écriture du film, après le tournage, l'organisation, les acteurs, le choix des décors, et fait tout cela, jusqu'au montage. Et donc, j'ai passé mes journées entières. J'ai compris, je crois, même pour la première fois, c'est ce que c'était que d'étudier. J'étais
oui.
vraiment un étudiant fasciné.
Oui.
Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'ai fini l'école, la direction de l'école m'a proposé de faire un stage dans un film qui avait déjà commencé depuis longtemps. Il s'appelait L'Ambitieuse de Yves Allégret. C'était un nom très important du cinéma français de cette époque et actuellement aussi, je crois. Et donc, je suis allé faire ce stage et les premiers assistants étaient Claude Pinoteau, qui est devenu metteur en scène lui-même après. Et après 15 jours de stage, 3 semaines, le film est fini et Claude Pinoteau m'a dit « Est-ce que tu veux être mon deuxième assistant ?» Voilà.
Oh.
Très vite. Je n'avais pas le droit d'être deuxième assistant. L'école ne permettait pas que les stagiaires deviennent deuxième assistant avant d'avoir fait au moins 3 stages.
Aha.
Bon, j'ai accepté quand même.
Oui.
Et l'école n'a rien dit. Accepté aussi. Voilà. Et par la suite, j'ai eu la chance de travailler avec des metteurs en scène comme René Clair, comme assistant, comme Jean Giono, comme Henri Verneuil, comme René Clément, Jacques Demy, Marcel Ophul, ça fait que, voilà. Et jusqu'au jour où j'ai fait mon premier film. Voilà.
Et alors,
un tout petit peu une biographie très rapide.
Oui. Ce jour-là, alors j'ai lu que c'était un scénario que vous aviez déjà préparé comme un essai d'étudiant sur un roman de Sébastien Japrisot.
Voilà, exactement.
Voilà, de 1962, Compartiment tueur.
Exactement. J'étais... René Clément venait de finir un film et il m'a dit « Bon, moi, je fais un film dans 3 mois. Si tu veux, tu m'entends. » Alors, j'attendais et je suis tombé tout à fait par hasard sur un livre policier qui s'appelait « Compartiment tueur ». Je l'ai lu, je dis « Tiens, je veux le faire comme exercice, de faire le scénario, le scénariser, sans avoir les droits, sans même jamais penser que je pouvais faire le film. » Je l'ai fait Et comme j'écris à la main, je l'ai donné à une secrétaire au studio, à le taper à la machine, c'était une amie. Et sans me demander mon sentiment, elle l'a donné au directeur du studio une fois tapé. J'étais un peu surpris, je lui ai dit « Pourquoi tu as fait ça ?» Il m'a dit « Parce que j'aimais beaucoup le scénario. » Le directeur du studio m'a envoyé un télégramme en me disant « Venez me voir, on peut faire ce film. » Parce que c'est intéressant. J'étais tout à fait stupéfait.
Mais c'est un film très beau que je n'avais jamais vu avant la semaine dernière. Et je me suis dit, parce que j'ai lu quelque part que vous avez été danseur aussi quand vous étiez jeune. Et il me semble que ce film est un film fait par un danseur. Tellement le mouvement qu'on aperçoit est à la fois organisé et en un sens loufoque, avec Yves Montand, un peu comme Jouvet. Okay, des orfèvres.
Oui, c'est vrai.
Et c'est une histoire, un policier. Il y a Montand qui a été un grand ami et qui a apparu dans 4 de vos films.
C'est cela, oui.
Et c'est avec son aide que vous avez pu monter.
C'est grâce à Montand et Simone Signoret que j'ai pu faire ces premiers films. Parce que quand un producteur, comme je vous le disais avant, m'a dit on fait ce film, il m'a dit alors qu'est-ce que vous envisagez comme acteur ? J'étais d'autant plus en plus surpris. J'ai dit, voilà, pour les jeunes, Jacques Perrin, je connaissais bien Jacques Perrin. Et j'ai dit, pour la jeune fille du film, la fille de Catherine Allégret, qui est la fille de Simone Signoret, fille de Yves Allégret, du metteur en scène. Ah, il me dit, c'est très bonne idée, etc. Il me dit, je vais appeler à Simone. J'ai dit, non, je connais les Montand très bien, puisque j'étais un assistant dans le film de Clément où jouait Simone Signoret. Et je m'étais occupé de ce problème pendant le film tout le temps. C'était. Je le connaissais assez bien, Yves aussi, qui m'a été présenté. Voilà. Il m'avait invité une fois à la campagne pour jouer au football, au volleyball, qui est mon temps joué. Il fallait faire une équipe. Il m'avait invité. Donc, j'étais assez proche. Et j'ai dit à Simone, voilà, il y a cette situation. Est-ce que Catherine me dit non, Catherine, il faut qu'elle fasse d'abord son bac. Il faut qu'elle ait d'abord son bac. Et puis après, on verra. Mais si tu veux, moi, je t'ai fait la vieille actrice, comme elle l'appelait. J'étais stupéfait. Je n'aurais jamais. Oser lui proposer.
Une actrice ne choisit pas souvent un rôle âgé.
Exactement. Si elle peut. Mais Simone l'a fait. C'était ce ton caractéristique. Mais elle n'est pas très âgée dans le film. Quand vous voyez le film, elle est quand même très belle. Mais elle aimait bien dire que je suis maintenant, j'ai dépassé la quarantaine, j'arrive à la cinquantaine, donc je suis plus jeune, je suis une vieille. Et prenez le devant.
Et oui, c'est le problème.
Et Yves, du coup, m'a dit aussi. Il paraît que tu as écrit un beau film, un beau scénario. Est-ce qu'il y a un rôle pour moi ? Voilà, c'est parti comme ça. Et le seul problème qui le préoccupait, c'était de faire un policier. Mon temps policier, ça lui faisait un peu comme ça. Ça lui plaisait pas beaucoup. Vous savez, on était aussi le lendemain de la guerre d'Algérie, donc la police à l'époque, il n'était pas, n'avait pas une très bonne réputation. Je lui dis, mais alors, ce qu'on peut faire, c'est que tu le joues. Avec l'accent du Midi. Parce que dans la vie quotidienne, il avait l'accent du Midi assez fort qui combattait un tout petit peu. Parce qu'il ne voulait pas jouer Fernandel ni Rému. Il m'a dit non, ça ne me plaît pas beaucoup, etc. Alors j'ai insisté et Simone lui a dit mais vous essayez, et sinon vous le doublez par la suite. Et il a accepté. Et c'est vrai que, comme vous l'avez vu, il a accepté de le faire jusqu'au bout, il était très content. Parce qu'il était complètement libéré. Il a joué tous les films avec l'accent du Midi. Et il disait par la suite que c'est grâce à cette espèce de masque que je me suis mis avec, en prenant l'accent du Midi, que j'ai compris ce que c'était que d'être un acteur. Avant, a dit dans ses biographies, j'imitais un peu les grandes stars. Je faisais un tout petit peu comme Humphrey Bogart, comme Gary Cooper. Tandis que là, a-t-il dit, j'ai vu que le personnage d'un film sort de l'intérieur, non pas de l'extérieur. Voilà. Et comme ça, on est devenus très amis. Après, on a fait, comme vous disiez, 4 films ensemble, 4 films et demi, et puis un cinquième. Et ils sont devenus tous les deux des amis, de la famille, jusqu'à la fin.
Mais c'est super. Et on voit ce film pourrait être, si on faisait encore des films en noir et blanc, mais enfin le contraste est parfait. C'est vraiment un beau film. Il a été restauré. Je crois que tous les films dans le coffret sont des restaurations des pellicules d'origine.
Il a fallu pour faire un coffret. Moi, j'ai toujours refusé de faire laisser mes films sortir un par un. Certains sont sortis parce que les producteurs ont voulu les sortir. Je pensais qu'il fallait qu'un jour réunir plusieurs films ensemble. les restaurer, restaurer l'image, restaurer les sons, et ajouter à ce groupe de films une sorte de comment dirais-je, interview pour expliquer comment naissent les films. En tout cas pour moi, chaque film, parce que chaque film a une naissance, a une raison d'être, et il naît à un moment précis pour des raisons très personnelles, profondes, qui m'ont touché. C'est pour ça qu'un film, c'est pas des commandes. Enfin, il y a des films commandés, c'est beaucoup de metteurs en scène, mais moi j'ai toujours fait des films comme j'ai voulu les faire, quitte à attendre parfois plusieurs mois, sinon plusieurs années. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire avec Arte, qui a accepté ce principe. J'ai réussi aussi à convaincre les Américains qui avaient produit dans ce coffret Missing, par exemple, de me lâcher Missing pour le mettre aussi parmi les films français. Voilà. Et alors, j'ai passé plusieurs mois à les restaurer, un par un, restaurer les images. Parce que vous savez, quand, avec le temps, l'émulsion qui est sur la pellicule commence à se défaire un tout petit peu. Quand un film de couleur, les couleurs changent un peu, où il y a des petites taches qui se créent ici et là. Donc, il a fallu passer par le système numérique, heureusement, parce qu'avant, on ne pouvait pas le faire avant le numérique. C'était très difficile. Avec le numérique, on voit les films image par image, sans le son, et on corrige. Et on corrige de sorte à retrouver les couleurs et les sons de l'origine complètement. Et on essaye même, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas essayer d'embellir, parce qu'avec le numérique, on peut embellir, on peut ajouter des couleurs, enlever des couleurs, etc. Non, pour moi, il est important de garder l'authenticité du film tel qu'il a été créé au moment où il a été créé. Bon, c'est comme ça qu'on a travaillé, et c'est comme ça qu'ils ont été restaurés tous les films, et comme ça qu'on a fait ce coffret avec une note que le journaliste du Plenel a vu le film et a écrit sur l'ensemble de l'œuvre. Voilà. Il y a quelques bonus aussi, parce que chaque film, il y a des tournages, comme vous devez savoir. Donc, il y a cela aussi.
C'est donc comme c'est une chose édition très complète. Définitive.
Pour ce film, oui, définitive. Il n'y a plus rien à changer comme ça.
Oui, super. Parce qu'un film numérique, c'est bon pour les siècles à venir. Il ne se détériorera pas.
Le numérique, je ne sais pas si vous le savez, le numérique, c'est pour l'audiovisuel, le cinéma et aussi l'audiovisuel, enfin les spectacles télévisuels, c'est une sorte de révolution totale. Pour le cinéma, que je connais mieux, ça change complètement la conception des films, ça change l'économie des films.
Oui.
Puis ça change aussi, et ça c'est le pire, le meilleur et le pire à la fois, la présentation des films, la distribution des films, l'arrivée des films chez vous. Pourquoi il y a du pire? Il y a du pire parce que vous pouvez aller voir les films à votre téléphone. Ce qui, à mon avis, c'est la pire des choses. C'est un barbarisme total. Voilà. Mais il est possible aussi, grâce au numérique toujours, avoir des DVD, avoir tous ces systèmes qui permettent à des gens qui n'avaient pas accès aux grandes salles voir les films chez eux, ou à la télévision. Ça, c'est aussi formidable. Voilà. Mais à part ça, ça crée aussi des dangers que nous, cinéastes français, nous connaissons bien, c'est que des grandes compagnies, comme quelques-unes que vous connaissez simplement, sûrement, s'en emparent des milliers de films et ils les vendent comme ils veulent, comme ça. Ils les sortent un peu n'importe comment, voilà. Et ce qu'ils risquent de faire, bon, ça c'est légitime complètement, ils peuvent le faire, mais le risque est que les productions comme la production française ou les productions nationales risquent d'en pâtir parce qu'ils ne payent pas d'impôts et il n'y a pas de retour pour aider le cinéma à produire d'autres films. Vous comprenez ? C'est ça le grand problème. Alors, il y a quelques grandes compagnies comme Netflix, quelques-unes vous les connaissez sûrement, voilà, les grosses compagnies qui vont faire ça. Aha. Alors, il y a une vraie lutte en France pour stopper ça et c'est vrai que le gouvernement français, tous les gouvernements français, participent à ça depuis quelques années.
Mais il y a en même temps de nouveaux téléviseurs qui sont capables d'être nourris par ces films restaurés pour donner une meilleure image.
Mais ça, c'est l'avantage. On peut avoir aujourd'hui des grands téléviseurs plutôt que les petits téléviseurs qu'on a eus il y a plusieurs années. On a des grands téléviseurs, on voit les films dans des meilleures conditions et on les voit même dans des conditions excellentes puisqu'il y a aussi le nouveau système qui permet d'avoir des meilleures images, etc. Oui.
Et est-ce que vous croyez que c'est comme un apéritif, c'est-à-dire ayant vu le DVD chez eux et lu les magnifiques articles et vu les bonus dans vos on peut dire, les volumes de votre volume, les chapitres de votre volume, ils ont envie encore, ils ont toujours envie d'aller au cinéma pour voir le même film?
Je crois qu'il y a des nouvelles générations hein, qui n'ont pas vu les films, parce que certains de ces films, ils sont quand même assez âgés. Il y a un film comme Z qui a pas loin de 50 ans maintenant. Et c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération, s'il a envie de les voir, il est là. Ça, c'est l'avantage, c'est comme les vieux livres. Bon, il y a des films qui disparaissent complètement, parce que le contenu ou l'époque à laquelle ils ont été faits, ou plutôt la sensibilité à l'époque avec laquelle ils ont été faits correspondait à une certaine époque et puis ils n'existaient plus. Mais il y a des films qui survivent exactement comme le livre. Voilà. C'est ça la vie, comme la musique aussi.
Ce magnifique film qui a survécu et qui survivra, qui est Z. Donc c'était votre troisième film et il fait partie d'une trilogie. Qui consiste à deux autres films avec Yves Menton. Mais Z, donc, c'est un film de 1967. Et est-ce qu'on
69,
doit le...
69.
Est-ce qu'on, pour bien le comprendre, on doit le replacer dans le climat politique de l'époque? Parce que...
Non, le film, à mon avis, il faut les voir comme ils sont. Quand on lit aujourd'hui, sans faire une comparaison, n'est-ce pas? Quand on lit Balzac aujourd'hui, eh ben, ce n'est pas la peine de dire on peut suivre l'histoire en pensant que les choses peuvent se passer aujourd'hui.
Je peux
vous dire, hier soir, on a eu une projection des aides précisément à Paris, au Forum des images, et parce que Madame Taubira fait une programmation sur certains films, et elle a choisi ça. Et c'est vrai qu'il y avait un public qui a beaucoup bien réagi par rapport au film. Mais il est possible aussi que certains films n'intéressent plus le public.
Donc ça n'a pas pour vous lieu dans un... Ça ne raconte pas un pays en particulier. C'est une question de l'homme contre le pouvoir et le pouvoir contre les hommes.
C'est exact. Moi, le thème qui m'a toujours beaucoup intéressé, c'est les relations de l'individu, de l'homme que nous sommes chacun, d'entre nous, homme ou femme, bien sûr, face au pouvoir. Face au pouvoir politique et puis face à tous les autres pouvoirs. Nous avons tous un pouvoir. Nous avons un pouvoir sur nos enfants, sur les gens qui travaillent pour nous, sur... je ne sais pas, ça dépend de la place, parce qu'il y a une sorte de la société d'une grande pyramide de pouvoir. Et il y a le plus haut, c'est le pouvoir politique. Et l'utilisation qu'on fait, ces pouvoirs que nous avons chacun de nous, sur notre femme, sur notre mari, etc., ce pouvoir peut rendre l'autre ou les autres heureux ou malheureux. Voilà, c'est cette idée-là, c'est l'utilisation du pouvoir. Bon, il se trouve que le pouvoir politique, quand il ne respecte pas les règles démocratiques, les règles pour lesquelles il a été fait, il peut faire, comme dans la dictature, par exemple, il peut être très, 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 très négatif pour le peuple. Et on l'a vu dans plusieurs pays, on le voit aujourd'hui tous les jours dans certains pays, il n'y a pas à aller chercher des exemples dans le passé, on a malheureusement plein d'exemples actuellement.
On a regardé autour de nous. Il faudrait peut-être raconter le début du film, et je vous laisse faire, et c'est l'histoire d'un député.
Non, c'est un député à l'époque pacifique, contre la bombe atomique et contre les bandes, les bases militaires qui étaient un tout petit peu partout en Europe, et notamment en Méditerranée, et notamment en Grèce, puisque l'histoire se passe en Grèce, qui a été assassiné. Et un juge, malgré ses opinions, qui ne sont pas du tout des opinions révolutionnaires, mais des opinions des juges, un respect total pour la justice, il fait l'enquête. Et il s'aperçoit peu à peu que c'est des militaires et la police qui est impliqué dans cet assassinat directement, quasiment directement ou indirectement, voilà. Alors, il finit, malgré les pressions qu'il subit, il finit par inculper des policiers et des militaires.
Et c'est merveilleux parce que c'est politique, mais en même temps, c'est pas seulement politique, c'est aussi une poétique du pouvoir, si vous voulez, qui est montrée, ou une chorégraphie.
C'est la partie où le juge décide, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je pense que, où le juge décide d'inculper les militaires. Donc, évidemment, j'ai respecté dans ça, le processus, mais il a fallu, comme toujours dans un film, de réduire beaucoup. Et en même temps, j'ai voulu, comme je n'aimais pas beaucoup ces militaires, de les montrer un tout petit peu caricaturaux comme ils étaient, en fait, dans la vraie vie. Et comme je crois que le film, c'est un spectacle, c'est pas un documentaire où il faut montrer exactement les choses comme ils sont passés, etc., comme dans les documentaires que vous visionnez, j'ai voulu faire un moment de spectacle, tout en gardant naturellement la base de la situation. Voilà.
Ce film a été un énorme succès. Et nous avons parlé un peu avant. En Amérique, le film a obtenu un Oscar du meilleur film en langue, deux Oscars, meilleur film étranger. Et c'était la première fois.
Et le montage aussi. Oui, voilà.
Et pour le montage, qui est merveilleux, dont l'exemple magnifique sont cette dernière minute. Et c'était la première fois depuis La Grande Illusion de Renoir qu'on avait donné l'Oscar à un film en langue étrangère.
Oui, qu'on avait donné 5 nominations, celle du meilleur film, du meilleur metteur en scène, à un film étranger et non de langue américaine. On l'avait fait avec le film, en effet, de Jean Renoir, et c'était la deuxième fois. Depuis, ils le font un peu plus. Ils ne le faisaient pas avant, c'est vrai.
Et j'avais lu qu'on avait dit que vous aviez inventé le film politique français. Est-ce que vous vous situez dans une tradition, un avant et un après, ou faut-il prendre les réalisateurs individuels sans penser à des influences?
Non, moi, je pense que le film politique, peut-être d'une autre manière, a toujours existé dans le cinéma. Il y a dans le cinéma muet, là, en 1905, je crois, ou 7, l'assassinat du duc de Guise. Ça vous dit quelque chose, c'est l'histoire de France. Donc c'était un assassinat politique, n'est-ce pas? Je veux dire, ce que je peux dire, c'est que j'ai traité des thèmes politiques d'une manière beaucoup plus directe qui n'a pas été fait avant. Bon, je ne peux pas dire, ça ne serait pas bien, même si ça aurait été d'une grande gloire de dire que j'ai inventé ça. Non, je n'ai pas inventé. J'ai inventé une façon de raconter une histoire grave, sérieuse, en faisant du spectacle. Parce que, voilà, je vais vous dire, pour moi, le cinéma, c'est du spectacle. Quand vous allez au cinéma, vous allez au spectacle. Vous n'allez pas pour écouter ou voir un discours politique ou un discours universitaire. Non. Vous allez voir le spectacle. Et moi, je crois que le spectacle a un avantage formidable, c'est qu'il crée des sentiments. Des sentiments, il fait rire, il fait pleurer, il fait avoir de la colère, etc. Tous ces sentiments, comme spectateur, on peut faire quelque chose ou on ne peut rien faire. C'est la liberté en sortant, voilà. Et je crois que c'est ça, le spectacle. Et je crois que le cinéma, on ne le dit pas assez, il peut être, comme le théâtre antique grec, comme le théâtre classique français, le Molière, par exemple, racontant des histoires de la société, ou le cinéma, le théâtre classique anglais ou actuel, etc. Donc il peut, et je crois qu'il le doit, sans que ça devienne un dogme. On peut faire autre chose aussi au cinéma, mais pour moi, c'est cela, le cinéma. Donc je fais les films que je fais avec cette idée-là.
Mais vous avez aussi fait des films plus psychologiques, plus domestiques aussi, avec Montand et Romy Schneider, une histoire très presque surnaturelle de deux amants qui sont au fait très très tristes tous les deux. Et c'est un film qui m'a surpris, que je n'avais jamais vu. Et comme il n'y a pas les noms des films sur l'écran, vous allez me dire, ça s'appelle Claire de femme.
Claire de femme, c'est
adapté de Romain Gary.
Oui, absolument.
Et c'est un film qui ressemble un peu au Compartiment des tueurs, dans la mesure où il y a toujours quelque chose qui passe. Il y a le dresseur de chiens, avec ce numéro de la chimpanzie qui fait danse la valse avec une caniche rose en plus, et des touches surréelles qui ne semblent pas de la même veine que vos films politiques, où la violence est suggérée, peut-être une autre violence que celle dont nous avons l'habitude dans les films politiques. Pourquoi avez-vous choisi à ce moment-là, je crois que c'était en 82, de faire ce film?
Oui, voilà, oui, c'est ça. L'amour est politique aussi, hein. Les relations avec l'autre, c'est ça.
également politique.
Oui. À mon avis, oui, peut-être. C'est une petite exagération, là, mais je pense que ce que je veux dire avec ces films, c'est que l'amour pour l'autre, ou pour l'amour dans un couple, ne peut pas être l'amour pour soi. Il faut être sur l'amour pour l'autre. Et c'est ce que montre ce film, cette relation avec Romy Schneider et Yves Montand, qui se vivent toujours, tous les deux, un grand malheur, et qu'ils essayent, de, comme ils disent, de sortir de ce malheur.
Oui.
Voilà. Et ils ont un rapport formidable, parce que l'une... Enfin, je ne veux pas raconter l'histoire.
C'est une très belle histoire.
Non. C'est une belle histoire, mais c'est essentiellement ça. C'est le thème... On dit on aime quelqu'un, mais si l'autre, l'homme ou la femme, un jour ne vous aime plus, on le déteste. Mais pourquoi ? Il a le droit ou elle a les droits. Donc ça ne devient pas un ennemi. Dans ce cas-là, s'il devient un ennemi, c'est qu'on s'aime plus que l'autre. Voilà. C'est ça que le film essaye de raconter d'une certaine manière. Alors je fais ce film à un certain âge parce que la mort est très présente dans ce film, puisque l'un et l'autre ils ont des problèmes de proches qui sont morts, qui vont mourir, et je suis arrivé à un âge aussi où le problème de l'amour était présent dans ma vie, et puis aussi le problème de la mort, et tout ça m'avait beaucoup, le livre m'avait profondément touché. Je connais assez bien Romain Gary, je lui ai demandé les droits, et comme ça j'ai fait le film.
C'est très beau et très différent des autres. Mais il y a aussi un film américain qui s'appelle Missing, qui est tout à fait dans la veine de vos premiers films, sur un père donc, qui est confronté à la mort de son fils. Mais c'est très long. Il y a une enquête, comme dans les premiers films, il y a une enquête. Et le père vient d'Amérique, dans un pays de l'Amérique du Sud, pour chercher son fils qui a été kidnappé.
Le fils d'un Américain, c'est une vraie histoire. C'est l'histoire de la famille Horman. Le fils est allé au Chili, comme ça, pour faire un voyage avec sa femme. Il avait pris une année sabbatique. Et il est arrivé au Chili le jour où Allende avait décidé que chaque enfant pauvre devrait avoir un litre de lait par jour. Et pour un Américain, c'était vraiment le pays le plus extraordinaire au monde. C'était pour lui, pour un jeune Américain, c'était le romantisme absolu. Et il a décidé de rester. Et il reste avec, commence à faire des petits films, des petites pour envoyer en Amérique, et puis des reportages. Et puis il arrive le putsch, le coup d'État. Et il se trouve dans une situation où il connaît des choses. Et il disparaît. On l'enlève. Et le père, qui n'aime pas son fils, parce que précisément, il veut pas être des affaires comme le père, qui est un homme chrétien, très bien, très, 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 très classe moyenne, qui, comme il l'a dit dans la vraie histoire, il votait pour Nixon. Il va chercher son fils. Et il commence à chercher partout. Et il ne le trouve pas au pays. Il tourne partout. Et puis il s'aperçoit très vite qu'on se moque un peu de lui. Et peut-être son fils est mort, etc. Et il apprend très vite que son fils n'est pas celui que c'est un type bien. Voilà. Donc il connaît son fils et en même temps découvre peu à peu que le putsch de Pinochet là-bas au Chili a été commandé ou téléguidé par les Américains de son pays. Et ça le rend furieux parce qu'il ne croyait pas du tout que son pays puisse faire ça. Voilà, c'est un peu ça l'histoire, mais en même temps, c'est pour moi, c'est un hommage sur la période de Allende, parce que j'ai eu la chance de connaître Allende, et je l'ai rencontré quelques fois, et je savais très bien qu'il ne voulait pas faire, comme on l'accusait, un autre système que le système cubain. Il voulait faire une autre démocratie, un tout petit peu comme ça se passe aujourd'hui en Amérique latine, loin des influences et des interventions permanentes, surtout commerciales et économiques américaines. Voilà, donc je fais ce film. Ce film a été très bien accueilli, il était d'abord produit par des Américains, c'est les Américains qui ont proposé le sujet, l'Universal. Jack Lemmon a accepté de faire le personnage principal, et ça a été un très très bon succès en Amérique.
Oui.
Il a été nommé pour les Oscars, et il a eu un Oscar pour le meilleur scénario.
Oui, oui, oui. Et vous avez, ça, ce n'est pas peut-être relatif à ce volume, mais ça m'intéresse beaucoup étant américaine, vous avez fait d'autres très beaux films qui concernent l'Amérique et aussi des films où il y a des femmes qui jouent le rôle principal de l'enquêteuse, par exemple Music Box, ou ce film formidable, La main droite du diable, sur l'enquêteuse du FBI qui se joint à un groupe de nazis américains et trouve que son mari en est un, est un, même un chef du groupe. Et elle le rend à la police aussi. Donc, votre film, les films politiques que vous faites, donc, se marient parfaitement avec des traditions de visionnage et peut-être de création américaine. Vous vous sentez à l'aise, peut-être. Quelle est la tradition du film politique en Amérique qui vous intéresse le plus ?
Oh, mais les Américains, depuis Charlie Chaplin... Ils ont fait, si on voit aujourd'hui l'état moderne, on s'aperçoit que, évidemment, il a fait dans d'une façon comique, il a fait une grande comédie, mais on s'aperçoit que derrière ça, il y a une société qui correspond à beaucoup de choses qu'on trouve aussi dans notre société. La pauvreté qui augmente de plus en plus, etc. Donc le film politique américain a été beaucoup présent, avec une certaine différence. Les grandes compagnies américaines ont traité des grands sujets, vous en avez su sûrement beaucoup d'entre eux, mais ils s'arrangent toujours pour avoir à la fin une sorte de happy end, comme on dit, une bonne fin. C'est-à-dire que le bien gagne et le mal, il est puni. Voilà. C'est vrai que nous, en Europe, on voit les choses un peu différemment. Voilà, que ça arrive aussi que le bien gagne, mais ça arrive souvent, très souvent, que le mal triomphe. Voilà. Mais ça n'empêche que le film politique. Alors, le film qu'ils m'ont proposé, enfin, que j'ai voulu faire après en Amérique, qu'ils m'ont intéressé à faire en Amérique, je le fais dans des conditions complètement françaises, puisque j'ai pris mes équipes américaines, françaises pour faire le film en Amérique et faire la post-production en France par l'Amérique et finir le film. Voilà, et les 4-5 films que j'ai fait en Amérique, je le fais sous cette condition et les Américains avaient accepté ça. Sinon, je ne les aurais pas fait.
Ah ah. Et en préparant pour vous rencontrer aujourd'hui, j'ai vu, je crois, sur un film que vous admirez énormément Steven Spielberg. Je crois, à un moment donné, vous l'avez appelé à un metteur en scène l'un des meilleurs du monde. Alors, il a fait plusieurs films très, très politiques. Et que pensez-vous de ces films politiques, La liste de Schindler, Lincoln, d'autres films qui ont eu beaucoup de, pas d'influence, mais qui ont été vus par beaucoup de gens. Est-ce que vous respectez ce cinéma? Beaucoup de Français ne le respectent pas.
Non, Spielberg, je n'ai pas dit qu'il était le plus grand metteur en scène du monde, c'était un presque l'unique metteur en scène avec deux ou trois autres qui n'ont fait que des grands succès. C'est qui est un avantage aussi. C'est vrai qu'il a touché à des sujets très importants. Et c'est vrai que pour cela, comme je suis président de la Cinémathèque française, on l'a invité à la Cinémathèque, on a une longue discussion avec lui, comme ça, lui parlant des films, notamment de la liste de Spielberg, de Schindler, que je trouve un film formidable, que je trouve un grand film, avec un petit bémol. Un tout petit bémol que je lui ai dit d'ailleurs et qu'il reconnaît. Vous savez, à un moment donné, pour ceux qui ont vu le film, il y a tous les prisonniers qui sont mis sous des douches et on s'attend, ce qui s'est passé pas dans les camps, que la douche sortait l'horrible chose qui tuait les gens. Voilà. Et là, ils sortent de l'eau. Donc, ils prennent une douche. Je dis que ça, c'est un tout petit peu... Il a reconnu, il a dit peut-être, si j'aurais dû peut-être le faire. Enfin, très bien, il a donné une explication.
Il jouait avec le spectateur, ou peut-être que c'était trop horrible.
C'était peut-être trop fort, peut-être trop fort aussi pour le public américain pour accepter cela. Voilà,
c'est ça. Oui, oui, oui. Voilà.
Mais ça n'empêche que c'est un metteur en scène qui est très, 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 très cohérent dans ce qu'il fait. C'est un metteur en scène qui est très imité par, en tout cas, tout le monde essaye de l'imiter. Beaucoup de jeunes voulaient être Spielberg.
Et aussi bien qu'un réalisateur magnifique, vous êtes aussi un grand homme du cinéma dans un autre sens, parce que vous êtes président de la Cinémathèque, et ce pour la deuxième fois. Vous avez déjà exercé cette fonction. Qu'est-ce que la Cinémathèque, donc, exactement? pourquoi est-il là ? Il y a une bibliothèque, je l'ai utilisée, il y a des séances, je les ai vues. Mais quel est le cœur de sa mission ?
La Cinémathèque, c'est un musée. C'est un musée du cinéma, tout simplement, comme le Louvre est un musée pour les arts, les différents arts. On montre des films sur l'écran, on accroche les films comme Louvre accroche les peintures. On montre le cinéma. Et puis, en même temps, elle a une responsabilité énorme pour restaurer les films. Pour restaurer les films qui... Elle a un gros budget pour restaurer les films qui risquent de disparaître, qui risquent de finir. Et elle a changé aussi, vous savez, les films, avant les années, à une certaine période, les années 50, étaient tous faits sur une pellicule qui s'enflammait. C'était des vraies bombes. Il y a eu des cinémas qui ont pris feu, il y a eu même des victimes. La Cinémathèque a commencé à les mettre sur une nouvelle pellicule qui est complètement inoffensive. Voilà, c'est son rôle. C'est son rôle de montrer. La Cinémathèque montre à peu près quelques 2 films par an, 4 à 5 films différents par jour. Il y a la Cinémathèque française, une grande librairie, il y a une vidéothèque, et les chercheurs viennent voir les films qu'ils veulent ou trouver les livres qu'ils veulent. Il y a à peu près 200 personnes qui travaillent à la Cinémathèque. Donc, c'est probablement la plus grande cinémathèque qu'il y a au monde et la plus complète. Et ça, parce que l'État, naturellement, aide beaucoup. Sinon, ça ne sortirait pas avec les recettes qu'a la Cinémathèque. Donc, c'est une institution très, très importante pour le cinéma, essentiellement. Voilà. Mm-hmm. Et on fait aussi des expositions, par exemple. On fait des expositions sur Renoir, comme vous l'avez dit, sur Kubrick. Sur le grand metteur en scène, en ce moment, nous avons une grande exposition sur les machines cinéma. Vous savez, le cinéma a commencé avec des petites machines qui marchaient comme ça, jusqu'aujourd'hui, il y a eu des milliers de machines différentes. Le cinémascope, le 70 mm avec des grandes films, des grandes caméras. On a une grande collection de quelques 6000 pièces et on expose une partie d'entre elles. Et les gens viennent et ils découvrent vraiment comment les films se font. Et on a des petites caméras, comme vous avez peut-être dans votre poche, des numériques. On a tout cela. On voit comment le film peut se faire.
Et il y a aussi des cours maintenant pour les enfants dans les écoles sur le cinéma. Est-ce que c'est important ?
La Cinémathèque a aussi des ateliers pour les jeunes, différents jeunes, qui viennent voir comment on fait les films. Eux-mêmes font des petits films. Ça n'est pas pour en faire des cinéastes, bien sûr, mais c'est pour comprendre comment les images se font et qu'est-ce que peuvent cacher les images. Parce que nous vivons dans une société où il y a tout est là avec des images. Dans les rues, vous voyez sans arrêt des images, on vous propose des choses avec des images. Alors, il faut... Et puis, avec les spectacles cinématographiques ou télévisuels. Donc, c'est important pour les jeunes, les plus jeunes, de comprendre, d'abord de savoir faire des choix, et puis de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les images. Pourquoi ces images sont comme celles-là ou autrement.
Vous avez dit, je l'ai lu, vous avez été cité. Est-ce vrai ? Oui, je crois que vous l'avez redit ce soir, que vous avez été très influencé. Non, vous n'en avez pas parlé. Parlez Rapace d'Erich von Stroheim.
Non, j'étais... Parce que la première fois, j'étais étudiant à la Sorbonne, et puis un jour, j'étais en France depuis combien ? Deux mois, et j'ai vu d'autres étudiants qui allaient à la Cinémathèque voir un grand film. Alors, je suis allé avec eux. Et il y avait une salle un peu comme celle-ci, avec des fauteuils qui faisaient beaucoup de bruit, qui étaient assez pauvres. Et puis, un gros monsieur il est venu raconter le film qu'on allait voir, qui s'appelait Les Rapaces. Et c'est un film de 3 heures. Et il était triste parce que le film, en principe, devait faire 6 heures ou 5 heures. Mais il n'avait pas tout. Les producteurs l'avaient coupé. Et j'ai découvert ce film d'Erich von Stroheim, qui était une vraie tragédie, avec 2 personnages. Qui parlent d'argent, qui se battent d'entre eux, etc., qui traversent un désert, eh bien, j'ai compris là, pour la première fois, que le cinéma pouvait faire des œuvres sérieuses, des œuvres graves, un peu comme le théâtre. Parce que je venais d'un pays, la Grèce, où il y avait beaucoup de censure à l'époque, c'était la période de la guerre froide, et on ne voyait que des films de cow-boys, des films d'action, ce type d'action. Donc j'ai découvert que c'était un autre monde au cinéma. Et après, évidemment, je suis allé voir beaucoup de films à la Cinémathèque.
Oui.
Et j'ai compris que voilà, c'était un nouveau type d'écriture, comme je vous disais tout à l'heure.
C'est une histoire magnifique, votre rencontre avec le cinéma. Mais est-ce que vous auriez pu rencontrer faire la rencontre du théâtre de la même manière? Avez-vous fait du théâtre?
Je fais du théâtre, un peu du théâtre, comme je vous l'avais dit. Je suivis des chorégraphes pour voir ce qu'était que la chorégraphie. Parce que la chorégraphie a quelque chose à faire avec la mise en scène. C'est une mise en scène de corps. Comment les acteurs doivent contrôler complètement leur corps, pouvoir savoir ce qu'ils font avec leur corps, et puis avec leur sensibilité. Mais le corps, c'est important, la voix, etc. Donc, puis j'étais assistant aussi de théâtre, j'ai fait quelques pièces de théâtre comme assistant aussi, précisément pour voir comment, et puis l'opéra aussi, pour voir exactement comment fonctionnait ce spectacle. Mais finalement, s'il n'y a que le cinéma qui m'a intéressé profondément, voilà, je suis resté au cinéma.
On parle beaucoup, même dans les cercles universitaires, des séries télévisées. Et nous avons mentionné tout à l'heure certains comme Homeland, américain, qui traite de la CIA et de la politique avec beaucoup de violence, mais sans parti pris. Est-ce que vous pensez que vos films, entre autres, ont préparé le public pour ces films? Est-ce que c'est quelque chose de différent que de regarder une série de bonne qualité et de regarder un film, ou est-ce que c'est le même?
Il faut dire aussi que pourquoi les séries ont le succès qu'elles ont? Parce que les producteurs ont compris qu'il faut utiliser les écrivains du cinéma, donner aux metteurs en scène des séries les moyens du cinéma et faire des séries qui coûtent très cher et qui touchent à des thèmes très sérieux au lieu de faire des séries comme ça, d'amusement, comme ils en ont fait beaucoup dans le temps. C'est pour ça qu'ils intéressent de plus en plus le public, évidemment. Je pense que c'est une façon de faire la télévision très intéressante. J'ai le sentiment que ça risque d'être une mode qui va passer, qui va durer un certain moment et qui va passer. Mais en tout cas, je pense que c'est des spectacles très intéressants. Évidemment, on les voit d'une autre manière que le cinéma, puisqu'on peut voir une heure, et puis une deuxième heure, et puis une troisième heure, etc. Donc, Et je pense aussi, j'ai le sentiment qu'ils touchent au problème souvent d'une manière uniquement spectaculaire, parce que ça touche directement le spectateur. On passe d'une chose à l'autre, comme celle que vous avez citée.
Oui.
C'est vrai qu'on est pris complètement. Mais je pense que c'est un avantage.
Mais vous ne pensez pas que ces séries télévisées vont tuer le cinéma, que les gens n'auront plus envie, ou est-ce que c'est complémentaire?
Non, ils n'ont pas tué, en tout cas pas en France. Hein. En France, je vais vous dire, nous sommes le pays en Europe où les gens vont de plus au cinéma. Nous avons à peu près chaque année 220 millions de spectateurs qui vont au cinéma pour les films. Et j'ai appris l'autre jour, on m'a dit au Centre national du cinéma, que cette année, on va encore battre le record. Donc, ils voient aussi des chaînes. Donc, c'est un moyen culturel qui est très, très bien suivi en France. Et c'est un avantage, parce que ça permet aussi d'avoir un grand cinéma, d'en faire beaucoup de films aussi. Merci beaucoup pour votre accueil et pour votre écoute.